que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Savoir lire et écrire est un facteur déterminant du développement et du changement. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dans notre pays. L'alphabétisation demeure donc l'unique moyen permettant à cette catégorie des personnes d'être initiées à la lecture et à l'écriture. Alors, comment réussir l'alphabétisation des personnes âgées? Monsieur Jean-Baptiste Mbaya, directeur général chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales, est notre invité. Alors, monsieur Jean-Baptiste, aujourd'hui, on parle de l'alphabétisation des personnes âgées. Comment réussir à cette opération?
Ouais, pour réussir cette opération, il y a d'abord le ministère des Affaires sociales, qui a dans l'une de ses missions la promotion sociale des groupes que nous considérons comme des groupes vulnérables. Alors, le ministère des Affaires sociales ne travaille pas seul. Nous travaillons avec ce que nous appelons les partenaires sociaux. C'est eux qui, effectivement, jouent un grand rôle dans, disons, l'alphabétisation des personnes, les personnes âgées, les personnes de troisième âge.
Alors, est-ce que vous avez l'idée sur le nombre de personnes non scolarisées dans notre pays, des personnes âgées?
Ok. Bon, ici, nous avons globalement le nombre de personnes âgées pour tous les âges. Nous avons aujourd'hui près de 27,1%
de la population,
qui est analphabète. C'est-à-dire que nous avons près de 19 millions de personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer.
19 millions de personnes
19
sur
millions
l'ensemble du
sur l'ensemble de la population national. Du territoire national. Mmh. Et sur ces 19 millions, nous pouvons faire la part entre les hommes et les femmes. Je crois que le pourcentage des femmes est de 39%, et les hommes, c'est 34%. Et c'est ces deux moyennes qui nous donnent les 27,1% pour l'ensemble de la population.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme, oui. C'est énorme. Bon, si aujourd'hui nous sommes à 27,1%, il y a près de 14 ans, au début des années 2000, ce taux d'analphabétisme était de 33,3%. Bon, ce taux, il est en train de baisser, parce que en 2007, par exemple, une enquête a été menée sur le plan national. Mmh. Ce taux était passé de 33,3% à 30% autour des années 2007. Et aujourd'hui, en 2014, compte tenu d'une enquête démographique et santé qui a été réalisée en 2013, nous sommes à ce taux de 27,1%.
Ouais. Mais c'est toujours énorme.
Ah, c'est toujours énorme.
Allez, vous avez dit que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de femmes analphabètes que
les hommes. Oui, il y a beaucoup plus de femmes analphabètes, effectivement.
Ouais. Alors, avec cette masse, comment arriver à réussir l'alphabétisation de toutes ces personnes âgées? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Pour y arriver, nous avons au niveau du ministère des Affaires sociales des services qui sont chargés de la réduction de ce taux d'analphabétisme, entre autres la direction générale que je dirige, la direction générale de l'éducation non formelle. À cet effet, nous avons des offres pour réduire ce taux d'analphabétisme.
Vous avez des centres de formation?
Nous avons des centres de... Ouais, tout justement, quand je parle des offres, nous avons des centres de formation. Mmh. Dans ces centres d'alphabétisation, nous avons d'abord des centres d'alphabétisation. Et c'est dans ces centres d'alphabétisation que les personnes de tous âges, peuvent venir pour suivre cette formation. En plus des centres d'alphabétisation, nous avons également des centres que nous appelons les centres de rattrapage scolaire. Les centres de rattrapage scolaire, eux, ils ne sont que des centres qui récupère plus les enfants qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école hein, au moment opportun, disons à 6 ans, ils peuvent venir chez nous à partir de 9 ans. Et dans ces centres, nous donnons la même formation qu'à l'école primaire, hein, mais pas pour une durée de 6 ans, mais c'est hein, le temps est réduit à 3 ans. Donc en 3 ans, un enfant qui est au-delà de l'âge de scolarité oui. peut suivre cet enseignement. Et à l'issue de cet enseignement, les jeunes que nous formons passent à l'école primaire, hein. Ils passent ce que nous appelons le test de fin d'études primaires, le TENAFEP. Oui,
et immédiatement.
Ouais, et tout justement après, hein, au-delà de leur formation, ils passent le TENAFEP et facilement ils réussissent avec brio hein, à ce test de. Et à partir de ce moment-là, nous arrivons à orienter ces jeunes-là. Mmh. Il y en a qui vont vers le formel, hein, ceux qui ont bien sûr un quotient intellectuel élevé. Mmh. Nous les orientons vers l'enseignement formel, et les autres, nous les reprenons chez nous, où nous organisons un enseignement de type professionnel, où ils peuvent apprendre un métier, la menuiserie, la cordonnerie, la mécanique auto, ainsi de suite.
Hein. Mais pour les grandes personnes, on parle souvent de la formation andragogique.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ici, donc, la formation andragogique, c'est une formation qui est réservée uniquement aux adultes. C'est une formation qui fait que l'adulte, on ne s'occupe pas de lui comme on s'occuperait d'un enfant. Hein.
L'adulte, il a des responsabilités, il a des charges, beaucoup de choses à faire.
Ouais, tout à fait.
Oui.
L'adulte, c'est quelqu'un qui doit se sentir intéressé. Hein. Mm. C'est à partir du moment où il s'intéresse que l'on peut lui donner cette formation en négociant avec lui, par exemple, l'horaire. Hein. On ne lui impose pas un horaire. Hein. Et même les connaissances qu'il peut recevoir, hein, c'est en fonction de ce besoin que nous lui donnons ces connaissances-là.
Et quelle est la méthodologie que vous utilisez pour réussir cette formation-là?
La méthodologie que nous utilisons, c'est beaucoup plus une méthodologie participative. Hein.
Mmh.
Oui, c'est-à-dire que la personne qui suit l'alphabétisation doit se sentir elle-même comme étant l'artisan de sa propre formation, hein. Oui, elle participe, elle se donne,
et nous
l'accompagnons.
Un exemple d'une séance de formation, vous êtes enseignant, allez-y, et imaginez que vous êtes devant des personnes adultes,
mm-hmm.
et vous devez donner une leçon, comment vous allez procéder?
Ok, nous sommes par exemple, nous enseignons, un analphabète apprend par exemple la notion de lecture. Hein.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous motivons notre leçon. En motivant notre leçon, nous laissons la grande part d'activité à l'apprenant. Hein.
Vous n'allez pas commencer par l'alphabet A, B, C, D.
Ouais, tout à fait. Nous commençons par l'alphabet. Là, c'est la lecture élémentaire. Hein.
D'accord.
Oui, nous commençons par l'alphabet. Nous évoluons pour passer par la lecture silencieuse, la lecture courante, la lecture expressive, ainsi de suite. Mmh. Mais ici, ce qui est plus important, c'est que l'alphabétisé est au centre des activités. Hein. Mmh. Nous n'utilisons pas la méthode disons ex cathedra, qui fait que nous déversons des connaissances sur lui,
oui.
mais nous le faisons plus participer.
Sinon, il risque de s'ennuyer.
Tout à fait, il risque de s'ennuyer. Oui, oui.
Fois.
Et nous revenons ouais. souvent sur ses difficultés, hein, pour qu'il arrive à bien assimiler les matières qui lui sont proposées.
Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Dunia nous appelle de Kindu, Richard Mukalenge est à Kinshasa.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Comment réussir l'alphabétisation des personnes âgées? Dunia Hassani Dekindou, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour à Jody, bonjour à la radio Cap. Maintenant, moi j'ai une préoccupation. Je suis d'abord du domaine, je suis aussi du SP. Maintenant, j'ai expliqué souvent un problème souvent pour l'encadrement de ces personnes. Et là, je vais catégoriser des personnes.
Oui.
Souvent, il y a des personnes là qui parlent bien, mais qui ne savent pas écrire. Ils peuvent avoir la connaissance, ils peuvent parler le français ou pas. Maintenant, la façon d'écrire, ça l'air. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ne savent pas parler et écrire maintenant. Je vais maintenant demander à l'invité de me donner quelle masse il fallait maintenant écrire. Souvent, on connaît que tel qu'il a dit, on va utiliser la méthode participative, c'est-à-dire feedback. On doit faire feedback avec l'intéressé. Maintenant, il y a un problème. Comment commencer maintenant à apprendre maintenant cette personne pour à écrire ou à parler? Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait d'abord? Par où il fallait commencer? Avec quelle notion?
D'accord. Avec quelle notion a commencé l'apprentissage? Merci. Richard Mukelenge, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité. Ma question est celle-ci. La première, dans le pourcentage cité là,
oui,
quelle est la part des jeunes? Les jeunes sont représentent quel pourcentage? Deuxième question. Parmi les obstacles, je présume que il y a les églises et ceux qui sont autour des hommes politiques. Les églises disent en longueur de journée, même si tu n'as pas étudié, l'onction te suffit. Pourtant, Jésus a parlé de l'écriture en combattant Satan. Quand il disait, il est écrit, il est écrit. Pour les hommes politiques, ceux qui sont autour des hommes politiques, nous avons entendu un discours de Chancelo Kopamba, Naza Pemenia Mokonzi, des choses comme ça. Merci beaucoup.
Bien. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, on vous écoute. Hein.
Oui, bonjour, je ne sais vraiment, ainsi qu'à notre invité.
Bonjour.
Ah oui. Allô?
Oui, on vous écoute.
Ah oui, j'aimerais donc savoir sur ce que l'invité donc venait de dire. Il vient de dire que la formation reçue par une grande personne n'est pas à comparer avec celle d'un petit garçon. Mais il y a des grandes personnes là qui résonnent comme des gamins. Par exemple, donc, les cours, les matières qu'il va donc inculquer à cette personne, va-t-il être vraiment différent avec celle donnée donc dès l'école primaire? Et puis la deuxième question, ça va donc. Voilà, bon, j'ai mis par là donc, merci.
D'accord, merci. Monsieur Jean-Baptiste, vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole. Je réponds d'abord à la préoccupation de Monsieur Dunia de Kindou. Il est devant deux personnes, dont la première sait bien parler, mais ne sait pas écrire, et la deuxième personne ne sait pas écrire, hein. Elle ne sait pas bien parler.
Elle ne sait ni parler, ni écrire.
Ok. Oui. Je crois que ici.
Par où commencer?
La pédagogie n'est pas une science figée. Hein. La pédagogie, elle nous permet toujours de nous adapter, hein, au cas. Hein. C'est-à-dire que pour la personne qui parle bien, Le formateur n'a pas beaucoup de difficultés parce que la personne a déjà un prérequis, hein, un background. Et par contre, c'est la personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui a beaucoup plus de difficultés. Et ici, le formateur utilisera des méthodes appropriées, hein, pour s'adapter à chacun d'eux. Ici, nous n'allons pas donner une recette à Monsieur
Dunia
pour lui dire qu'il faut utiliser telle méthodologie.
Alors, il dit par quelle notion commencer, parce que lui, il est un peu confus, il sait pas comment s'y prendre.
Non, par quelle notion, il y a tout un processus didactique, hein, par lequel il faut enseigner. Généralement, il faut commencer, je donne un exemple.
Oui.
Oui, dans les leçons qui apprennent à lire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne ces notions qui apprennent à lire? On peut enseigner, par exemple, les voyelles. Hein. Après les voyelles, on enseigne les syllabes. Hein. Après les syllabes, on passe aux mots. Et après les mots, on voit un peu les phrases. C'est dans ce sens-là que monsieur peut évoluer. Et à partir des phrases, on peut passer, n'est-ce pas, à une lecture, par exemple, expressive, où l'individu a tout un texte qui, sous la conduite du maître, peut, n'est-ce pas, arriver à intérioriser cette lecture auprès de cet apprenant. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement.
Alors pour les adultes, il faut tout écrire au tableau pour qu'ils voient comment se présentent les mots, comment on écrit tel ou tel autre mot, ou on doit les remettre tout simplement des livres, ils vont regarder dans leurs livres.
Ouais, même quand on a les livres, le tableau c'est un auxiliaire très important qui occupe d'ailleurs une part importante dans la transformation des connaissances. Parce que, par exemple, pour arriver à écrire la lettre A, il faut que le maître qui est le modèle passe au tableau et montre comment on écrit la lettre A. En même temps, il facilite, n'est-ce pas, l'écriture de la lettre A à l'autre. Entre-temps, l'apprenant peut passer au livre, au matériel didactique, ainsi de suite. Mais le tableau a toujours, n'est-ce pas, son importance.
Mais vous avez quand même des ouvrages que vous donnez aux enseignants pour qu'ils veulent donner ces genres de cours à la formation andragogique pour qu'ils suivent la méthodologie.
Oui, nous avons chez nous des modules de formation. Et ces modules-là, nous les partageons avec nos partenaires sociaux qui sont du privé, du confessionnel, et nous sommes ensemble avec eux. Nous sommes un service normatif. Nous sommes un service normatif. Nous produisons toutes ces normes-là que nous mettons à la disposition de tous ceux qui nous accompagnent dans ce phénomène de l'alphabétisation dans notre pays.
D'accord. Avant de répondre à M. Richard et à Passion, on va accueillir deux autres auditeurs. Augustin Gongo est à Bandounouville. Aimé Paloukou nous appelle des commandes en province orientale. Augustin Gongo, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Oui, voici ma préoccupation. Quelles sont les méthodologies à utiliser pour que cet apprentissage soit fructueux ou pour que cela donne un résultat escompté? Deuxièmement,
oui.
Est-ce que le spécialiste ne peut pas étendre cet enseignement sur toute l'étendue de la RDC, notre pays?
D'accord, merci. Aimé Paloukou, des Komanda, bonjour. Aimé Paloukou, vous êtes à Komanda, bonjour. Il n'est plus en ligne. Bien, c'est Aimé.
Non, c'est Séraphin.
C'est Séraphin, voilà. Un autre auditeur, Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Ma préoccupation est la suivante par rapport à l'andragogie.
Oui.
J'ai été moi-même précepteur, malgré mon statut de juriste aujourd'hui. J'ai été impressionné par l'intervention de l'ancien intervenant. Ça m'a plu. Maintenant, moi, ma préoccupation est la suivante par rapport à notre invité. L'andragogie, c'est une pédagogie qui concerne les adultes. En tant qu'ancien précepteur, j'ai eu certaines difficultés par rapport au tableau noir, le tableau en général comme on l'utilise dans toutes les classes. Le précepteur n'a pas un tableau noir en général, surtout quand nous sommes dans des situations où on n'a pas cette possibilité d'enseigner avec ce tableau partout où on passe. Alors, si nous n'avons pas de tableau aujourd'hui, bon, concernant la vie de Lubumbashi maintenant, quand j'enseigne, si je peux le faire avec les adultes, j'utilise du papier. Quelle est l'ampleur de cela par rapport à l'enseignement que je donne à un adulte qui ne veut pas, qui ne voit pas, je voulais dire, un tableau? Est-ce que le papier dedans a le même niveau, le même diapason que le tableau noir? Parce que j'écris pas sur tableau, j'écris sur papier. Et des grandes feuilles, par exemple, à 4 et tout comme ça.
Donc, d'accord, on a compris. Monsieur Jean-Baptiste.
Ok. Là, nous, après avoir terminé avec Monsieur Dounia, nous passons à
Monsieur Richard de Kinshasa.
À Monsieur Richard.
Il dit vous avez pas présenté les pourcentages du taux d'analphabétisme par rapport aux hommes et aux femmes, mais par rapport aux jeunes, vous n'avez pas donné les pourcentages.
Ok. Par rapport aux jeunes, je dis ceci. Il y a une enquête nationale qui a été réalisée en 2012. L'enquête s'intitule Enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école. Alors, cette enquête a révélé que sur la population de 19 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, il y a plus de 7 millions, près de 7 millions 500 000 jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. Et sur les 7 millions, il y a près de 3 millions qui ont l'âge qui varie jusqu'à 9 ans, hein, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc voilà un peu les chiffres qui concernent les jeunes par rapport à ce taux d'analphabétisme.
Et il dit que les églises encouragent, je ne sais pas moi, l'analphabétisme en disant aux gens, même si tu n'as pas étudié, l'onction va t'accompagner, les politiciens et sont également à l'origine de cela avec ces phénomènes des chancelots au copain, ben, Nada Pemina Mokondi.
Non, je ne pense pas que les églises soient, la cause de ces obstacles. Hein.
Oui.
Il y a les églises qui nous accompagnent comme partenaires, hein, ici.
Mais il y a des églises qui ont des centres de formation.
Oui, il y a beaucoup d'églises qui ont des... quand nous prenons les confessions religieuses,
oui,
elles prennent à peu près 80% de l'alphabétisation dans notre pays.
Des personnes adultes.
Oui, des personnes de tous âges confondus. Hein. Mmh. Oui. Dernièrement, par exemple, j'ai été dans un centre d'une église, hein, et ce centre m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé une maman de 70 ans, hein, qui a fait de l'alphabétisation conscientisante. Hein. C'est l'église, je crois, de la résurrection qui est à Lemba.
Cette maman parle bien, elle écrit aussi. Elle est à mesure aujourd'hui d'écrire.
Elle est en mesure d'écrire en français. Disons que être alphabétisé, ce n'est pas seulement parler français. C'est savoir lire, c'est savoir écrire, c'est savoir interpréter un message pour le comprendre. Mmh. Ouais, c'est ça.
Même en lingala, écrire
en lingala
ou en swahili.
Et chez nous, ce que nous devons faire, c'est de favoriser plus les langues nationales, hein, l'alphabétisation en langue nationale, pour que les autres langues, le français, l'anglais, viennent après.
D'accord. Aimé Paluku est à commande, on va l'accueillir. Bonjour Aimé.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Mais quelle est votre question?
Oui, je voulais savoir la prise en charge de cette formation est assurée par qui? Est-ce que la formation est gratuite ou bien
elle est payante?
Mon temps pour être formé sur l'alphabétisation.
D'accord, merci. Alors, passons à la question du patient Paul. Il dit qu'il y a des adultes qui résonnent aussi comme des petits-enfants. Est-ce qu'on ne va pas leur donner la formation au même titre que celle qui est donnée aux enfants de l'école primaire?
Disons que la formation, le contenu de la formation, c'est le même que celui qui est donné à l'école primaire. Mais ici, ce contenu-là, il s'adapte au niveau de l'adulte et il s'adapte aussi au niveau de l'enfant. Ici, quand on parle des personnes adultes qui raisonnent comme des gamins, nous ne pensons pas que ces personnes adultes raisonnent comme des gamins. Ce sont des personnes qui n'ont pas, je crois, développé leur capacité intellectuelle. Hein. Et à partir du moment...
Mais ils ont quand même l'intelligence de la vie.
Tout à fait, ils ont
les pères de famille,
tout
les mères de famille,
ils
travaillent et nourrissent leur famille.
Raisonner comme des gamins, c'est peut-être par rapport à l'appropriation des compétences. Quand ces personnes s'approprient ces compétences-là, ces compétences de la vie courante, je crois que ces personnes cessent de se comporter comme des gamins. Elles commencent à se comporter comme des personnes adultes, n'est-ce pas? Des personnes qui ont une certaine maturité intellectuelle, maturité spirituelle, ainsi de suite.
Mais j'imagine que ces personnes sont très susceptibles. Hein. Celui qui donne cette formation doit faire attention. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, certains gestes qu'ils ne feront pas poser. Sinon, on peut les frustrer. Et ils ne vont plus venir.
Tout à fait. La psychologie veut que, devant de telles personnes... Hein, on adopte un certain comportement pour ne pas les frustrer. C'est essentiel, c'est essentiel. Parce que vous savez, quelqu'un qui est analphabète devant une personne lettrée, Hein, l'analphabète doit toujours se sentir dans un état de complexe d'infériorité. Mmh. Alors il faut de temps en temps mettre
le rassurer.
Tout à fait.
La mettre en confiance.
C'est ça.
D'accord. Augustin de Bandonville parle de la méthodologie. Quelle est la méthodologie appropriée à utiliser pour enseigner les personnes âgées?
Ah, lui parle de méthodologie, mais oui. je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Ouais, qu'on en a parlé avec Donia.
Bien sûr.
Hein, oui. Pédagogie, c'est une science qui s'adapte, n'est-ce pas? Qui
s'adapte. Et vous avez dit pour les personnes adultes, il faut beaucoup plus la méthode participative.
Oui, il faut plus la méthode participative.
Hein. Oui. Ouais. Alors, il dit, pouvez-vous, pourquoi ne pas étendre cette formation dans les autres provinces? Il y a des centres andragogiques, des formations andragogiques un peu partout à travers le pays.
Ouais, nous disons ceci, le ministère des Affaires Sociales, nous avons des racines dans les provinces. Hein. Au niveau des chefs-lieux des provinces, nous avons une division provinciale. Et dans cette division provinciale, nous avons des centres de promotion sociale qui organisent l'alphabétisation. Et ces divisions provinciales travaillent en connexion avec nos partenaires sociaux. Hein. Donc, à travers toute la République, nous avons des centres. Mmh. Et si je peux parler des chiffres, à travers le pays, nous avons près de 1500 centres hein, qui organisent l'alphabétisation et l'éducation non formelle.
Et c'est là qui a contribué à la baisse du taux d'analphabétisme.
Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qui est en train de contribuer à faire baisser le taux hein, d'analphabétisme dans notre pays. Et ici, si nous pouvons parler des engagements internationaux que nous avons, disons, signés en relation avec ce que nous appelons l'éducation pour tous. Hein? L'éducation pour tous fait que les gouvernements sont sensibilisés pour que l'analphabétisme soit combattu et avec les ramifications que nous avons sur toute l'étendue du pays. Beaucoup de nos partenaires savent ce que nous faisons et ils mettent en application cette politique d'alphabétisation à travers tout le pays.
Et même Inaku nous appelle depuis Isiro, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, c'est l'invité.
On vous écoute, Aimé.
Oui, j'ai des questions aujourd'hui. La première est de savoir, les personnes de troisième âge et surtout, ils se mettent vite en colère. Parfois, vous lui apprenez ceci, vous lui dites de répondre, par exemple, les A, de dire B. Lui, c'est pas comme si vous lui mettez ou bien en difficulté. Comment il se met à fâcher de vous dire que non, s'il ne va pas, il vaut même de laisser. Or, c'est pour son bien. Comment maîtriser cette personne-là? C'est ça ma première question. La deuxième est de savoir, ces personnes-là sont comme des petits enfants. Ils se fatiguent très vite. Il faut combien d'heures pour leur apprendre l'alphabétisation?
D'accord, merci. Monsieur Jean-Baptiste, revenons à Séraphin qui dit, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut utiliser les tableaux. Les tableaux noirs, lorsqu'on enseigne les personnes adultes, parce qu'il faut écrire, et ils vont voir, ils vont également reproduire ce qu'ils voient au tableau, mais il n'a pas de tableau, il écrit sur du papier, A4. Est-ce que c'est bon ou pas?
Je ne dirais pas que c'est bon, c'est mauvais. Bon, le tableau noir occupe une place de choix dans l'enseignement. Aujourd'hui, par exemple, quand nous ne sommes pas en présence du tableau noir, nous utilisons ce qu'on appelle, par exemple, le flip chart. Hein. À l'intérieur du pays, c'est difficile de trouver le flip chart.
Le flip chart,
c'est un type de chevalet sur lequel on peut mettre du papier, du papier qui peut avoir 80 centimètres, 80 centimètres sur 1,20 m par exemple. Mmh. Et dessus, on peut
écrire avec le marqueur,
hein, et cela peut prendre la place du tableau. Hein.
D'accord.
Oui. Et je conseillerais donc à mon ami hein, de Lubumbashi hein, de ne pas tellement se fier au papier A4, hein, parce que hein, le papier A4 peut restreindre hein, les compétences à transmettre à l'apprenant.
Et mais de commande à nous dit est-ce que ce genre de formation, cette formation doit être gratuite ou bien doit être payante?
Ah bon, ça dépend, hein, ça dépend des moyens de celui qui assure la formation. S'il trouve que il peut donner la formation dans un mode de gratuité,
Généralement, tant dans mieux. Les églises, vous travaillez avec les églises. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que c'est gratuit ou bien on demande aux apprenants de payer?
Non, vous temps, savez que, il faut absolument payer. Il faut absolument c'est payer. Pour pérenniser l'activité. Sinon, quand on ne paye pas, à un moment donné, l'activité peut tomber en désuétude et ne pas continuer.
Ouais. Et mais depuis ici, on nous dit que ces personnes se mettent vite en colère, surtout les personnes du troisième âge. Et alors, comment il faut beaucoup de tact, comment s'y prendre pour bien transmettre les connaissances?
Ici, le facilitateur, il a besoin de se considérer comme psychologue, hein. Oui,
en tant que... Il doit être formé.
Ah, absolument, il doit être formé. Hein.
C'est un type de formation qu'on ne doit pas laisser à n'importe qui.
Oui, c'est une formation. Bon, enseigner, ce n'est pas une formation qui est laissée à n'importe qui. Hein. On devient formateur après une longue formation. Donc la formation, il faut qu'elle soit là et il faut que la personne apprenne des notions de psychologie. Hein, de
alors psychologie. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Jean-Baptiste, qu'est-ce faire aujourd'hui pour multiplier les centres d'alphabétisation à travers le pays et pour combattre l'analphabétisme?
Ouais, pour combattre, pour multiplier, bon, chez nous au ministère des Affaires sociales, nos chefs hiérarchiques ont demandé aux chefs de division provinciaux de multiplier les centres d'alphabétisation. Et en ce qui concerne les privés, nous conscientisons les privés, hein, pour qu'ils arrivent à le faire. C'est le cas, par exemple, pour la journée de lundi 8 septembre. C'est la journée internationale de l'alphabétisation. Nous allons faire un peu de bruit autour de l'alphabétisation. Nous organisons des manifestations au niveau de l'hôtel Vénus. Hein. Oui. Et là, en dehors de, disons, dans le courant du mois, nous aurons à organiser une conférence avec l'ambassade des États-Unis. Nous allons partager les expériences autour de l'alphabétisation aux États-Unis et en RDC, hein. Oui. Après cette conférence de presse, nous organisons également un atelier de réflexion sur le thème qui nous est proposé aujourd'hui par l'UNESCO Paris, le lien entre l'alphabétisation et le développement durable. Nous allons inviter un certain nombre de personnes à cet atelier-là. Tout cela, c'est pour conscientiser les gens. Contactons également les gouverneurs de province pour qu'au niveau des provinces, ils arrivent à organiser des manifestations dans le courant du mois de septembre, de sorte que beaucoup de gens sachent quelle est l'importance de l'alphabétisation pour ensuite développer des activités d'alphabétisation sur terrain.
Monsieur Jean-Baptiste Mbaya, directeur général chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Ouais, merci, c'est nous qui vous remercions de nous avoir fait participer à cette émission. Merci une fois de plus.